Vatican News, le journal, il est 8h30.
Il y a 75 ans, jour pour jour, les Alliés débarquaient en Normandie et amorçaient la libération de la France et de l'Europe des troupes nazies. Le jour J est célébré ce jeudi en présence notamment du président américain Donald Trump. Ces commémorations ont déjà débuté côté britannique hier dans la ville de Portsmouth avec un discours solennel de la reine Elisabeth II. Un moment d'histoire commémoré aujourd'hui. Nous retrouverons notre correspondant à Londres et nous entendrons le cardinal Marc Ouellet qui représente le Saint-Siège en Normandie. Le prélat québécois qui a donné hier une conférence sur le thème de la paix et qui est l'invité de notre dossier à la fin de ce journal. À la une également, le Soudan où malgré la répression sanglante de la contestation, les militaires se disent prêts à de nouveau parler avec les manifestants. Une offre de dialogue en trompe-l'œil imposée par l'Arabie Saoudite. Nous irons aussi à Cuba où les touristes américains ne peuvent plus voyager en groupe, conséquence de nouvelles sanctions imposées par Washington. Et puis de nouvelles tensions en vue entre la Commission européenne et l'Italie. Bruxelles propose de placer l'Italie en déficit excessif en raison de l'explosion de sa dette.
Le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, la France s'apprête à recevoir Donald Trump ce jeudi matin, une visite du président américain à l'occasion de la célébration du 75e anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie. Cérémonie en présence également de 500 vétérans de la Seconde Guerre mondiale, souvent centenaires aujourd'hui. Emmanuel Macron et Donald Trump se retrouveront au cimetière américain de Colville-sur-Mer, puis iront à Caen pour un déjeuner de travail. Ces commémorations du jour J s'étaient ouvertes hier côté britannique dans la ville de Portsmouth avec la présence des 16 pays ayant participé à l'opération Overlord, la reine Elisabeth II a notamment rendu hommage aux près de 150 000 soldats qui ont débarqué pour libérer l'Europe de la tyrannie nazie. Jean Jaffré.
Entourée des chefs d'État et de gouvernement des 16 pays qui avaient participé à l'opération Overlord, la reine Elisabeth a rendu un hommage émouvant à la résilience de la génération de la Seconde Guerre mondiale, ma génération, a précisé la souveraine, qui avait alors 17 ans. L'héroïsme, le courage et le sacrifice de ceux qui ont perdu la vie ne seront jamais oubliés. L'opération Overlord, préparée dans le plus grand secret, a nécessité près de 7000 bateaux et barges de débarquement qui ont transporté plus de 150 000 troupes alliées vers la côte normande. Sans doute, pour la dernière fois, 300 vétérans participaient à la commémoration, films d'archives, chansons et danses des années 40, et pour terminer, voltige aérienne auquel ont participé des Spitfire de la bataille d'Angleterre qui avaient contraint Hitler à renoncer d'envahir le pays. En écho au discours de la reine Elisabeth lors du dîner d'apparat en l'honneur du président Trump, qui a gagné l'élection présidentielle avec le slogan « America First », le président français Emmanuel Macron a rappelé que les forces alliées, je cite, « avaient su se mettre ensemble pour nous libérer de la tyrannie. Ce sont celles aussi qui ont su bâtir, après le conflit mondial, les structures du multilatérisme contemporain, Nations Unies, OTAN, FMI et Banque mondiale. » Long, Jean Jaffré, Vatican News.
Et représentant le Saint-Siège aux commémorations Normandie, le cardinal Canin. Canadien Marc Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques, nous l'entendrons dans notre dossier à la fin de ce journal. Au moins 108 morts dans les manifestations réprimées depuis lundi au Soudan et malgré cela, la junte militaire au pouvoir se dit prête à reprendre les négociations. Les chefs du mouvement de contestation rejettent sans surprise l'offre de dialogue des militaires. La rupture semble totale derrière ces fausses promesses d'apaisement. Marie Duhamel.
Un discours apaisant pour la fin du Ramadan, le général Abdel Fattah al-Burhan est de nouveau apparu à la télévision. Au nom de l'intérêt national, il a appelé les Soudanais hier à ouvrir une nouvelle page, se dit prêt à des négociations sans restrictions et même il a regretté ce qui s'est passé à Khartoum. Un volte-face étonnant après des dizaines d'exécutions sommaires lundi et le refus mardi de tout compromis avec les civils. Les généraux sont sous pression après les condamnations venant des États-Unis, de Londres ou d'Oslo, mais c'est sans doute le communiqué publié par Riyad qui a fait changer la donne. L'Arabie Saoudite qui soutient ouvertement les militaires et qui a d'ailleurs promis de leur verser 3 milliards de dollars, Riyad a souhaité une reprise du dialogue. Des négociations semblent toutefois impossibles, d'abord parce que l'association des professionnels soudanais fer de lance de la contestation refuse de parler avec un conseil militaire qui tue des gens, mais aussi parce que tous les généraux ne semblent pas alignés. Le numéro 2 de la junte a prévenu d'ailleurs hier qu'il ne tolérera pas le chaos. Mohamed Hamdan Daglo n'est autre que le chef des forces de soutien rapide, les FDR, issus d'anciens l'ancienne milice Janjaweed accusée d'atrocité au Darfour. Ce sont elles qui ont tué les dizaines de civils lundi. Ce sont elles qui aujourd'hui sont déployées à Khartoum et ailleurs pour dégager les barricades.
Marie Duhamel et Khartoum, ville fantôme malgré la fin du ramadan, où pourtant des coups de feu ont été entendus encore hier. En raison des conditions de sécurité précaires et de la situation politique très volatile, les Nations Unies et le Royaume-Uni ont décidé d'évacuer leur personnel non essentiel dans le pays. Il s'appelle l'Empress of the Seas, l'impératrice des mers, et de nombreux Cubains ont vu quitter hier avec amertume ce paquebot américain de leur côte. C'est en effet hier que de nouvelles sanctions de l'administration Trump sont entrées en vigueur à Cuba, interdisant notamment les voyages en groupe des ressortissants américains sur l'île. Objectif, punir Cuba de son soutien au Venezuela de Nicolas Maduro. La correspondance à La Havane de Romane Frachon.
C'est un nouveau coup dur pour l'économie cubaine qui suffoque de plus en plus. Chose promise, chose due, les citoyens américains ne peuvent plus visiter l'île en voyage groupé, sous peine d'être poursuivis par la justice américaine. Depuis l'assouplissement des sanctions par Obama, les touristes américains étaient devenus les plus nombreux à visiter l'île chaque année, devançant même les Canadiens. Ils étaient plus de 300 000 touristes l'année dernière, dont plus de la moitié préfèrent voyager en bateau plutôt qu'en avion. Les voyages en croisière avaient été autorisés en mai 2016, ils n'auront duré que 3 ans. Non seulement cette interdiction nuit à l'industrie du tourisme, branche de l'armée cubaine, mais aussi aux petits entrepreneurs privés, restaurants et locations de chambres. C'est le dernier coup d'une série de mesures de Washington depuis janvier. La dernière visait à bloquer les cargos de pétrole du Venezuela à Cuba. Ces sanctions ont pour objectif d'asphyxier le régime cubain, accusé d'ingérence au Venezuela. La Havane, Romane Frachon, Vatican News.
Et le Venezuela, où de nouvelles livraisons d'aide humanitaire doivent avoir lieu ces prochains jours, selon la Croix-Rouge, en provenance notamment du Panama. La situation humanitaire dans le pays est toujours catastrophique. La dernière livraison d'aide remonte à la mi-avril. 24 tonnes de vivres seulement, et depuis, plus rien. L'Italie est menacée par de lourdes sanctions européennes. C'est ce qui a été annoncé hier par la Commission européenne. Bruxelles pointe du doigt l'augmentation continue de la dette italienne qui justifierait, selon Bruxelles, une procédure d'infraction pour déficit excessif. Une annonce qui marque le début d'un nouveau et long bras de fer entre les Italiens et l'Union européenne, alors que le gouvernement italien est au bord de la rupture. Les précisions à Rome de Blandine Hugonnet.
Il y a 6 mois, l'Italie avait promis de contenir son énorme dette. Aujourd'hui, elle n'a pas tenu ses engagements. C'est ce qu'a dénoncé hier Pierre Moscovici, le commissaire européen à l'économie. Autrement dit, la dette de 132% du PIB l'an dernier pourrait prendre 3 points de plus l'an prochain, bien au-delà des 60% fixés par les règles européennes. Un record qui plomberait un peu plus le deuxième pays le plus endetté de la zone euro. Côté déficit public, même augmentation problématique qui dépasserait le seuil européen des 3%. Bref, à ce niveau-là, l'Union européenne a estimé couvrir une procédure pour déficit excessif était justifiée. Sanctions qui pourraient peser jusqu'à 3,5 milliards d'euros à l'Italie. Et même si dans les faits, le lancement effectif d'une telle sanction n'aurait pas lieu avant un an, Bruxelles veut ouvrir un dialogue au plus vite. Mais les négociations s'annoncent déjà difficiles. Les deux partis eurosceptiques au pouvoir s'obstinent. Pour le mouvement 5 étoiles et la Ligue de Matteo Salvini, pas question de toucher à leur réforme phare, les retraites et un impôt unique. Obstination qui pourrait coûter cher à la coalition divisée et fragilisée par les résultats aux élections européennes. Il y a 2 jours, le président du Conseil italien a menacé de démissionner si le gouvernement ne se mettait pas d'accord pour respecter les règles de Bruxelles. À Rome, Blandine Hugonnet pour Radio Vatican.
Et si l'Italie est dans le collimateur de Bruxelles, l'Espagne, elle en sort. La Commission a proposé de clore la procédure de déficit excessif à l'égard de Madrid, le dernier pays qui était soumis après son ouverture il y a 10 ans. La Russie déroule le tapis rouge aux investisseurs. Le forum économique de Saint-Pétersbourg s'ouvre ce jeudi. Pas moins de 17 000 participants de 75 pays sont attendus. Parmi les invités de marque, le président chinois Xi Jinping. Arrivé hier à Moscou, il a rencontré Vladimir Poutine, avec lequel il a réaffirmé vouloir ouvrir une nouvelle ère d'amitié, renforcer aussi le partenariat économique entre leurs deux puissances. Dans l'actualité du Vatican, on a appris la mort du cardinal italien Elios Grecia, mort hier à Rome à la veille de son 91e anniversaire. Le cardinal Grecia était le président émérite de l'Académie pontificale pour la vie. Il avait été appelé par Jean-Paul II au service de la curie romaine en 1992 comme secrétaire du Conseil pontifical pour la famille. Créé cardinal en 2010 par Benoît XVI, il avait participé notamment aux 2 synodes sur la famille de 2014 et 2015. Dans un télégramme, le pape François salue son généreux service à l'Église, spécialement pour l'œuvre précieuse et assidue en défense de la valeur fondamentale de la vie humaine à travers une action étendue d'études, de formation et d'évangélisation. Fin de citation. 6 juin 1944, c'était donc il y a 75 ans, jour pour jour, sur les plages de Normandie, le débarquement des Alliés, la plus grande opération militaire de l'histoire. Baptisée Overlord, elle a marqué, on l'a dit, le début de la libération de la France des troupes hitlériennes. Ces jours-ci, la France et d'autres nations du monde font mémoire de ce jour J qui a permis la victoire de la liberté. Une victoire impossible sans le courage et le sacrifice de milliers d'hommes et de femmes. Au soir du 6 juin, on dénombrait déjà plus de 3000 morts alliés et près de 3000 pertes civiles parmi la population normande. En Normandie, justement, les cérémonies de commémoration sont nombreuses aujourd'hui, en présence de chefs d'État et des derniers vétérans. Ils se rassembleront sur les plages du débarquement, dans les cimetières militaires ou les villes emblématiques, comme Bayeux, la première ville de France libérée grâce à l'entrée des Britanniques au matin du 7 juin. Hier, à 18h30, un tédéum solennel s'est déroulé en l'abbatiale Saint-Étienne de la ville. Il était présidé par le cardinal Marc Ouellet, le préfet de la Congrégation pour les évêques. Le prélat canadien a ensuite tenu une conférence sur le thème de la paix, l'occasion pour lui d'apporter un message d'espérance et de rappeler l'importance de l'éducation dans la construction de la paix. On l'écoute.
Le panorama mondial est assez inquiétant, mais cela ne doit pas nous conduire au désespoir ou à l'indifférence comme s'il n'y avait rien à faire. Au contraire, c'est justement parce que notre foi nous donne cette conviction profonde que la paix est possible, parce qu'elle est acquise, que nous pouvons agir, nous les chrétiens, pour redonner du courage à l'humanité, redonner l'espérance à l'humanité, non pas simplement en attendant qu'à la fin, il y a une fin positive pour l'humanité, parce que le salut est acquis par le Christ, mais il faut que ce salut agisse aujourd'hui. Hein, précisément dans le type de relation que nous construisions avec nos frères et sœurs de toute confession ou de tout credo.
L'Église donc porte ce message de paix et d'espérance. Est-ce qu'elle a aussi un rôle à jouer dans la transmission de la mémoire de ces événements du débarquement ?
Évidemment. Et il y a un danger aujourd'hui que ces événements soient oubliés parce que les écoles ou dans les programmes, on oublie l'histoire. Je crois que pour assurer que la mémoire des jeunes générations conserve les leçons de ces événements-là, eh bien, il faut enseigner l'histoire. Il faut l'enseigner davantage. Et cela fait partie des limites de l'éducation aujourd'hui, le peu de place que l'on donne à l'histoire. Et donc, on s'expose à répéter les erreurs du passé si on n'en connaît pas les causes et les conséquences et comment on doit éviter de répéter ces mêmes situations.
C'est peut-être l'un des défis en Europe aujourd'hui où on observe une montée des nationalismes et une fragmentation des peuples. De quelle manière l'anniversaire de ce débarquement peut intervenir à ce niveau-là, faire changer les choses ?
Le Saint-Père a rappelé il y a quelques jours que l'idéal des premiers fondateurs, qui était un idéal spirituel aussi, hein, culturel et spirituel, a été un peu, je dirais, oublié. Et on a donné totale priorité aux facteurs économiques et on se trouve devant une crise qui ne sera pas surmontée sans qu'il y ait une prise de conscience, justement que c'est à partir aussi des valeurs spirituelles, donc de la foi et de l'espérance et de la charité que l'on reconstruit ou qu'on assure l'avenir de l'Europe.
Vous qui êtes d'origine canadienne, quelle signification revêt le souvenir du débarquement pour vous personnellement ?
Moi, je suis né 2 jours après le débarquement. Donc, je suis né le 8 juin. Et bon, évidemment, quand je repense à cet événement-là, je pense à toutes les victimes, même canadiennes. Mais ce qui me frappe surtout, c'est que ces quelques victimes de mon pays, c'est rien à côté des millions de victimes qu'il y a eu ici sur le territoire européen. Alors, pour moi, cette prise de conscience des victimes de ces massacres affreux des guerres, c'est quelque chose qui devrait rester comme imprimé dans notre mémoire et dans notre cœur pour prévenir les conflits et donc développer, comme dit le pape François, une culture de la rencontre et une culture du dialogue. Et l'amour social, comme il dit, l'amour social.
Et l'intégralité de cet entretien est à retrouver sur notre site vaticannews.va. Interrogé par Adélaïde Patrignani, le cardinal Marc Ouellet était ce matin l'invité de la rédaction.